Tiago Rodrigues est né à Lisbonne, donc il parle portugais, mais aussi français, anglais, et c'est le premier directeur du Festival d'Avignon à ne pas être de nationalité française.
Je ne suis pas très attaché à l'idée de nationalité. Par contre, la langue, je suis chez moi en parlant portugais. Après, il y a des traces de ma personnalité qui se révèlent que dans d'autres langues.
Et qu'est-ce qui se révélerait de vous en français alors, par exemple?
C'est très intéressant ça. Disons qu'en français, je peux être plus sérieux, je peux être plus affirmatif. J'essaie de rester sympa, mais ça c'est dans toutes les langues, parce que je pense qu'on n'a pas... La vie est trop courte pour être toujours fâché. Voilà.
Salut, ça va? Dit-il en ouvrant la porte. Jovial, il m'invite dans un salon au plancher qui craque et file dans la cuisine préparer un café. Tiago Rodrigues est né à Lisbonne en 1977, 3 ans après la révolution des œillets qui installait la démocratie dans son pays. Il a travaillé avec une compagnie belge d'Anvers, a dirigé le théâtre national Dona Maria II à Lisbonne, s'est fait connaître en France au début des années 2010. Tiago Rodrigues est nommé directeur du Festival d'Avignon en 2022 et son mandat vient d'être reconduit pour les 4 prochaines années. Depuis qu'il dirige ce festival, une langue est invitée pour chaque édition. Après l'anglais, l'espagnol et l'arabe, cette année ce sera le coréen qu'on peut avoir dans l'oreille avec le cinéma. Et coréen est aussi la langue de la jeunesse grâce à la K-pop. Jusqu'en juin, une des dernières pièces de Tiago Rodrigues est en tournée en France. Elle s'intitule « La distance ». C'est l'histoire du lien entre un père et sa fille. L'appart dans lequel nous sommes est à Paris, pas loin de la Comédie Française, et on voit une grande roue tourner à travers la fenêtre.
Totemic, Rebecca Manzoni, sur France Inter.
C'est chez vous, ici?
Non, c'est chez une amie.
Ok.
Qui habite ici, et je fréquentais beaucoup quand j'étais à la Comédie Française. Si on veut un endroit tranquille, etc. Parfois, je fais ça, si j'ai besoin de faire un rendez-vous ou, je vous avoue, c'est pas la première interview que je fais ici, dans cet appart.
Okay.
Si j'ai besoin d'un lieu tranquille où je me sens bien, et c'est ici.
Quand est-ce que votre famille est venue à Paris pour la première fois?
Je sais que mon père est venu pour la première fois comme exilé, échappant à la dictature au Portugal. Ça, c'est 67. Et il est parti illégalement, et évidemment, clandestin. Ça veut dire une bonne partie de l'Espagne à pied. Il est arrivé à Paris en 67. Il a passé le 68, le mai 68 à Paris. C'est une des choses qui revenait beaucoup dans ses conversations, dans ses mémoires de Paris de cette époque. Et il est revenu au Portugal juste avant la Révolution, parce que après la mort de Salazar, du dictateur, les dernières années du régime étaient quand même marquées de quelques tentatives d'ouverture. Il a retrouvé ma mère, c'est très beau, parce qu'il n'était pas ensemble avec ma mère à l'époque. Et en fait, c'est dans son retour qu'ils font ces retrouvailles, parce que ma mère habitait le nord du Portugal, très proche de la frontière. Et il demande à ma mère, une amie de lycée, de l'aider avec sa voiture à arriver dans son village à lui. Et là, ils commencent leur aventure, qui était peut-être déjà promis depuis le lycée, mais qu'ils commencent à vivre là. Et 2-3 années plus tard, c'est la révolution de 74. Et 3 années plus tard, je suis né.
J'aimerais bien vous faire écouter un son d'archives, justement, concernant la révolution de 74 et l'avènement de la démocratie au Portugal. Parce que vous êtes précisément de la première génération de Portugais à vivre ces années, à vivre cette démocratie.
Ça, c'est le jingle qu'on entendait sur France Inter en 1974. Le 25 avril de cette année-là, au Portugal, une nouvelle ère s'ouvrait pour le pays, la démocratie. À Lisbonne, des militaires venaient de mettre fin à 43 ans de dictature, extrait d'Interactualité présenté par Jacques Thévenin.
Première conséquence de ce coup d'État, la population est en liesse, elle manifeste sa sympathie aux libérateurs du pays, comme nous le confirme de Lisbonne notre envoyé spécial Bernard Benjamin.
La foule, c'est la foule qui règne dans un Lisbonne en fait. Pendant des années, elle n'a pu rien dire. Pendant des années, elle s'est contentée de murmurer des critiques contre le gouvernement du docteur Caetano. Depuis 48 heures, tout est fini. Alors, elle éclate. Elle descend dans la rue, Elle crie « Liberté » sur l'avenue du même nom, et elle parle, elle n'arrête pas de parler, elle se défoule après tant d'années de privation.
Ah, c'est superbe. Elle parle, elle n'arrête pas de parler. Ouais. On est plus bavards, nous, ceux qui ont né déjà en démocratie. Ça, c'est quelque chose qu'on se rend compte parfois, quand on parle de nos parents, de nos grands-parents. Même les plus joyeux des Portugais, pas nécessairement bavards. Je pense que la démocratie a permis une génération de bavards comme moi.
Mais au-delà de ça, la proximité de votre naissance avec cet événement, comment ça vous a façonné ?
Vous m'avez vu, pas les auditeurs, mais vous voyez, j'écoute, en plus, journaliste français qui parle de ça, et déjà je suis transporté comme si je l'avais vécu. Et ça, c'est très étrange chaque fois.
Vous avez souri d'ailleurs.
Mais j'ai les larmes aux yeux, j'ai du mal à parler, je souris. C'est il y a une espèce de joie, mais très, très forte. Vous voyez, ça, c'est... Rebecca, c'est vraiment portugais. Vous arrivez à m'avoir dans un moment de grande joie, larmes aux yeux. On ne peut pas s'empêcher. Et en même temps, il y a toujours une espèce de nostalgie, de quelque chose que je n'ai pas vécu en plus. Ce pays en dictature, je ne l'ai jamais connu. Ce pays de la censure, je ne l'ai jamais connu. Et je le ressens comme quelque chose qui a formé les gens qui m'ont éduqué à moi. J'ai été élevé par des gens qui avaient vécu la plupart de leur vie en dictature, parce que c'était plus de 40 ans de dictature fasciste au Portugal. Et ça veut dire que mes parents, ils n'avaient jamais vécu en démocratie. Moi, j'ai appris à vivre entouré de gens que je pensais qu'ils comprenaient très bien le système dans lequel on vivait, mais ils apprenaient à peine à vivre en démocratie. On ne peut pas comprendre ce qui c'était avant. Et en même temps, moi, le 25 avril, c'est comme si je l'avais vécu. Ça fait partie de mon code génétique éthique, politique, citoyen, sentimental. Beaucoup de ce que je fais est marqué par le... C'est le dette ou la dette ?
La dette.
La dette. Je suis animé par la dette. Ça peut sembler négatif, mais c'est pas du tout. C'est une espèce de... J'essaie de répondre à la générosité de ceux qui se sont dit « je peux risquer mon travail, ma vie, mon statut social, mon avenir, mais je vais me battre pour quelque chose duquel d'autres vont profiter ».
Mais d'ailleurs, vous faisiez le lien entre cet événement et votre travail de dramaturge, de metteur en scène, de directeur du Festival d'Avignon. Et l'un des motifs récurrents de votre travail, c'est justement la mémoire.
C'est pas un choix a priori. Chaque fois que je vais faire une pièce, je dis déjà, là, tu vas faire quelque chose de très spectaculaire. Finalement, ça sera très visuel. Après, pas le cas, c'est des acteurs qui parlent. Et la deuxième chose que je dis, c'est, s'il te plaît, cette fois-ci, pas de mémoire comme sujet. Tu fais quelque chose d'autre. Et au milieu, la mémoire, elle émerge, elle s'impose. Parfois, je le découvre à la toute fin. Ah, c'est encore une fois une pièce sur la mémoire. Je ne suis pas figé dans un genre, dans une forme. J'aime même cette idée un peu d'un renard qui saute de petit trou en petit trou, curieux, et change la forme chaque fois. Mais à la fin, si on va vraiment regarder de proche, oui, c'est des pièces sur la mémoire. Mais la mémoire, je dois dire, pas juste sa dimension, qui est toujours présente, nostalgique, qui est douce et un peu triste au même temps, mais aussi la mémoire comme un geste politique du présent, la mémoire active. C'est pas l'hommage du passé, c'est se nourrir du passé pour produire pensée au présent, pour produire des gestes de l'action au présent.
Mais si on part de ce spectacle qui vous a fait connaître en France, By Heart, le personnage qui est au cœur de cette pièce, c'est votre grand-mère. Mm-hmm. Qui était cette femme ?
Ma grand-mère Candida était une femme d'une énorme intelligence qui a vécu toute sa vie dans un petit village du nord-est du Portugal, à Trás-os-Montes. Et dans ce village, elle avait avec mon grand-père un bistrot. Et elle était une passionnée, très passionnée, obsédée par la lecture même, comme si la lecture était sa vengeance contre le fait qu'elle n'a pas pu continuer son éducation formelle. Elle lisait Je pense, d'une certaine façon, avec la ténacité de quelqu'un qui se venge d'avoir raté une opportunité. Elle m'a transmis le goût de la lecture, mais presque comme quelque chose d'inévitable. Évidemment que tu seras passionné de la lecture. Il n'y a jamais un livre qui soit trop cher. Ça n'existe pas. Voilà, ça c'est quelque chose que ma grand-mère pourrait dire. Elle m'a transmis le goût de la nourriture et de la cuisine aussi, et de l'hospitalité, de passer les jours à faire gaffe si les gens autour sont bien, si ça se passe bien. Voilà, ça aussi mon grand-père, mais cet esprit de bistrot allié au livre, allié à une idée de café, une idée de convivialité, de récit, etc. Je ne peux que penser que là, ce que je fais aujourd'hui est une version dans ma vie de ce qu'a fait ma grand-mère dans son bistrot. Et après, avec By Heart, c'est une pièce que j'ai créée alors qu'elle devenait aveugle à l'âge de 93 ans à l'époque. Et là, elle m'a demandé, je veux apprendre un livre par cœur, je ne peux plus lire. Bientôt, c'était une question de moi, je vais devenir aveugle, alors est-ce que tu peux me choisir un livre pour que je l'apprends par cœur ? Ce qui est terrible.
Et grosse, en même temps, grosse responsabilité.
Oui, et en même temps, d'une beauté, d'une générosité, mais pour moi, c'était écrasant. Et là, je me suis lancé sur une recherche rapide, parce que le temps pressait, pour un livre qu'elle pourrait apprendre par cœur. Et pendant cette recherche, je pensais déjà, je vais faire une pièce à propos de cette quête du livre. Et cette pièce est By Heart, où je fais apprendre par cœur un sonnet de Shakespeare à 10 personnes chaque fois sur scène, en racontant un tas d'histoires sur écrivains, sur apprentissage par cœur, sur la puissance des mots et de la littérature, mais aussi l'histoire de ma grand-mère et de sa demande d'un livre à apprendre par cœur, qui finalement était les sonnets de Shakespeare.
Bonsoir, merci d'être là. C'est comme ça que Thiago Rodriguez commence quand il joue ce spectacle, By Heart, qui veut dire par cœur en français. Ensuite, il explique, comme vous voyez, il y a 10 chaises vides sur la scène. Je voudrais que 10 spectateurs prennent place sur ces chaises. Avant que vous acceptiez mon invitation avec enthousiasme, je voudrais vous dire que ces 10 spectateurs vont apprendre un texte par cœur. Un texte court, pas trop difficile, pas trop simple non plus. C'est un texte possible. Et là, comme spectateur, on peut penser à la fin de Fahrenheit 451, roman de Bradbury que Truffaut a adapté pour le cinéma. Parce qu'à la fin, il y a une forêt où on rencontre des hommes et des femmes qui ont appris des livres entiers par cœur pour que ces livres existent et pour que ces livres se transmettent, même si on les censure ou même si on les brûle. Elle fut en concert sur France Inter en décembre, avant une tournée au printemps, Vanessa Paradis, Le Retour des Beaux Jours.
Juste après la foudre, quand l'orage a cessé, cette odeur de poudre fait encore le danger. D'être givré, aveugle et sourde,
Le spectacle avec lequel il s'est fait connaître en France parlait de sa grand-mère portugaise. Celui qui se joue en ce moment, à Madrid, Barcelone, avant Dunkerque et bientôt Le Havre, ce nouveau spectacle donc met en scène un père et sa fille. Il s'intitule « La distance ». Thiago Rodriguez en est l'auteur. Thiago Rodriguez, dramaturge, metteur en scène, est dans Totémic ce matin.
France Inter, Totémic, Rebecca Manzoni.
Vous avez des enfants ?
Ouais, j'ai une fille. Beatrice, avec l'accent portugais. Elle a 24 ans.
Comment la génération de votre fille, parce que c'est évidemment le sujet de la distance, il y a cette relation père-fille, comment cette génération vous questionne ?
Déjà, elle m'inspire énormément. Mais encore une fois, quand on parle de génération, on généralise. La partie de la génération de ma fille qui m'inspire, c'est la partie qui nous interpelle sur la ruine des rhétoriques politiques actuelles face aux besoins du présent et de l'avenir, que, soyons très clairs, ni l'extrême droite populiste démagogique avec ses mensonges, ni la plupart des discours politiques de ce qui pourrait être le champ démocratique républicain arrivent à prendre en compte complètement. Je pense qu'il y a aujourd'hui une incomplétude très évidente du discours politique vis-à-vis les préoccupations des prochaines générations. Évidemment qu'une jeune de 24 ans aujourd'hui, elle se dit c'est pas vous qui allez nous aider. Et quand vous nous parlez de garder l'espoir, les choses peuvent encore changer, l'espoir vous l'utilisez pour nous calmer.
Pour faire diversion.
Ouais, c'est une anesthésie. C'est une tentative d'anesthésie. Et dans ce sens-là, je pense que c'est pas la première fois qu'une génération va vivre pire que la génération précédente. Il y a eu des guerres, des famines, évidemment. Mais je trouve que c'est la première fois qu'une jeune génération n'a pas le droit à aspirer à vivre mieux que la précédente.
La distance, c'est l'histoire d'un père et de sa fille. Ils sont séparés par des années-lumière, enfin une galaxie. Parce que la fille, elle est partie sur Mars. Elle s'est déclarée volontaire pour être oubliante, pour perdre la mémoire. Et le père essaie de garder le contact. Et ce qui les relie, c'est une chanson. Pourquoi vous avez choisi ça ?
Moi, je pense que dans une chanson, on encapsule peut-être pas le monde entier, mais une chanson est beaucoup plus grande qu'une chanson. Elle a un monde, elle est encyclopédique. Parfois, peut-être plus qu'un poème, parce que très ouverte à toutes et à tous.
Immédiat, la chanson.
Oui, quand j'entends Nina Simone, que j'ai utilisée déjà dans un spectacle, ou une chanson d'Otis Redding, que j'ai utilisée déjà dans Écube, pas Écube, ou cette chanson de Keaton of Lowe's, Sogne, je rêve, qui est un immense génie de la poésie, de la musique populaire brésilienne, pour moi, il y a un monde qui est encapsulé et qui se libère le moment qu'on écoute en chantant parfois. Et j'aime bien l'idée de la chanson dans le théâtre, comme la pause ou les pauses, comme le moment où on souffle un peu et on pense à tout ce qu'on voit au théâtre. Quand je commence à écrire une pièce, j'écris pendant les répétitions, j'écoute toujours le même type de musique et je suis obsédé par la recherche de quelle est la chanson de la pièce. Il y a toujours une chanson dans la pièce et ici, je écoutais cette chanson en boucle en écrivant La distance et elle s'est imposée, elle s'est glissée dans la pièce.
Je vous redonne le titre de cette chanson, Sonhos, du brésilien Caetano Veloso.
Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E de repente eu me vi assim, completamente seu. Vi a minha força amarrada no seu passo. Vi que sem você não há caminho, eu não me acho. Vi um grande amor gritar dentro de mim como eu sonhei um dia. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. quando a canção se fez mais clara e mais sentida, quando a poesia realmente fez folia em minha vida. Você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa.
Essa é minha parte preferida.
Mas não tem volta, não.
Só quero que você se encontre. Saudade até que é bom. Melhor que caminhar vazio.
Essa é super.
Que eu tenho em mim.
Eu tenho sim.
Não tem desespero, não.
O poema aussi, ele é brilhantíssimo.
Tenho um sonho em minhas mãos.
Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz.
Elle dit quoi, cette chanson?
C'est rêve au pluriel. Et c'est une chanson de quelqu'un qui était quitté par quelqu'un d'autre. Tu m'as dit que t'étais passionné de quelqu'un d'autre, alors que moi j'étais emprisonné par tes pas. Et après il dit, mais pas de problème, je suis pas révolté. Tu vois, le manque, c'est pas mal du tout. C'est mieux qu'être vide. Je souhaite le mieux pour toi. Je veux juste que tu te retrouves toi-même. Demain, ça sera un nouveau jour. Je serai certainement plus heureux. C'est quelque
Quelle
chose...
Quelle classe !
C'est très beau. C'est... Il y a un sourire dans la défaite qui me plaît beaucoup dans cette chanson. Il y a une résignation, mais qui est une résignation fine, philosophique, intelligente. Il y a une réflexion sur... ça fait mal maintenant, mais je comprends que tu dois y aller et que ce que tu m'as donné déjà est énorme et qu'en fait, la vie, la plupart du temps, ressemble à ça. Ça peut se passer dans l'amour romantique, mais ça se passe toujours dans l'amour filial. C'est une chanson qui parle de cette décision, à un moment donné, d'accepter que... on ne sera plus là tout le temps. Elle devient le code pour qu'un père puisse comprendre qu'à un moment donné, même en étant en désaccord avec les choix de sa fille, même en étant ultra blessé par cet abandon, ce départ de sa fille, même en étant politiquement complètement contre ses choix et sa vision du monde, il faut lui souhaiter bonne chance.
Cette chanson, elle est en... C'est moi qui suis émue. Cette chanson, elle est donc en portugais brésilien.
Ouais.
Vous, qui parlez français, qui avez vécu des expériences fondatrices avec une troupe de théâtre flamande d'Anvers qui s'appelle Tejestan, quelle relation vous avez avec le portugais, avec votre langue maternelle aujourd'hui ?
Je ne suis pas très attaché à l'idée de nationalité. Je pense que la nationalité est un accident. Par contre, la langue, je suis chez moi en parlant portugais. Après, il y a des traces de ma personnalité qui se révèlent que dans d'autres langues. Mais il y a aussi des parties de moi que je sais qui ne seront jamais accessibles sinon en portugais.
Et qu'est-ce qui se révélerait de vous en français alors, par exemple ?
Ah, je pense que en français, je c'est très intéressant ça. Je pense qu'en français, j'ai plus de mal à véhiculer l'ironie. Et souvent, il y a des choses que je dis par ironie que je dois soit expliquer après que c'était ironique, soit accepter qu'elles étaient prises au sérieux telles quelles. Alors qu'en portugais, c'est le contraire. En portugais, j'ai plus de mal à être pris au sérieux. Apparemment, j'ai un ton un peu trop ironique en portugais, ou même sarcastique, satirique, etc. En français, je me glisse vers le sérieux plus vite, je pense.
Mais alors, quand vous écrivez ? Vous écrivez en quelle langue ?
En portugais. J'écris toujours en portugais, même pour des Français. Et je travaille toujours avec un camarade, Thomas Rezendes, qui m'accompagne quand c'est avec des équipes françaises. Souvent, j'écris le soir et je l'envoie très tard pendant la nuit le texte qu'il doit traduire le matin très vite. Je pourrais écrire en français. J'écris des mails tous les jours en français, je lis en français. Mais l'idée d'écrire pour des comédiens, je décide de ne pas écrire en français parce que je sais que je ne serai pas libre. Pour moi, la mesure est la suivante. En français, je fais des erreurs. Mais je ne me rends pas compte la plupart du temps. L'erreur, c'est comme quand je parle. J'ai décidé que j'ai beaucoup de confiance en train de parler français. Je suis sûr, pendant cette interview, j'ai déjà changé le genre de plusieurs mots et j'ai commis des erreurs de synthèse, etc. C'est juste que j'accepte que ces erreurs ne sont pas plus importantes que ce que j'arrive déjà à faire dans votre langue. Mais en écrivant en français la même chose, je fais des erreurs et je ne me rends pas compte. Et si j'ai des doutes, je dois vérifier, etc. En portugais, si je fais des erreurs, ils sont exprès. On l'appelle une autre chose, c'est transgression, c'est poésie. Alors moi, pour écrire pour des comédiennes, comédiens, je dois écrire en faisant des erreurs exprès. J'aime écrire toujours en portugais pour me sentir libre dans l'écriture.
Ce qui m'impressionne dans ce que vous racontez, c'est l'urgence du truc. Il y a un côté d'écrire dans l'instant, quoi. Vous n'arrivez pas avec la troupe en disant « Ok, voilà le texte, maintenant on va répéter », comme si vous provoquiez cette urgence, non ?
Ouais, ouais. C'est, j'aimerais bien, et j'ai beaucoup de fascination par les écrivains qui écrivent tous les jours 4 heures et qui ont cette nécessité d'écrire ou qui tombent malades s'ils n'écrivent pas. Moi, s'il n'y a pas de pièce, je n'ai pas besoin d'écrire. J'aime bien écrire. Mais j'écris pour des comédiens et comédiennes. J'écris pour la répète de demain ou d'aujourd'hui. Chaque fois, je pense aussi, c'est cette fois-ci que je vais écrire la pièce avant. Et ça va marcher. J'écris 2-3 pages. Et j'arrive le premier jour de répète et tout le monde rit. Et encore une fois, il a promis la pièce et il n'y a pas de pièce. Parce que c'est tout un processus de travail. J'écris avec les comédiens. J'écris à partir des retours et des idées, des expériences des comédiens, mais aussi du reste de l'équipe, d'éclairagistes, de la personne qui fait le décor, des costumiers, etc. Tout le monde peut être autour de la table et discuter et donner son avis. Et cette idée d'une imagination collective à laquelle je réponds avec mon écriture, c'est ce qui m'anime, c'est la façon dont j'ai développé une manière de travailler, qui n'est pas une méthode, mais qui a ses principes de privilégier la rencontre, privilégier l'écoute et de se dire que écrire une pièce pour moi, c'est comme un roman épistolaire, c'est des lettres d'amour que j'écris aux comédiens et eux, le jour d'après, dans la répète, ils me répondent et moi, je vais réécrire la lettre et écrire une nouvelle et ça s'entasse comme ça. J'écris jusqu'à la semaine de la première parfois et pour moi, il y a ça. La meilleure idée, elle est encore à venir, peut-être.
Voici Little Sims avec Young.
Who's that creeping in my window? I get a hot flash whenever the wind blows. Nothing to my name now when everybody knows. When I'm in need of cash, I go down to the bingo. Last night I asked Jenny for a quid. This is the fifth time I'm used to taking the piss. A bottle of Rio and some chicken and chips in my fuck me up pumps and my wine house quiff.
We love you, Amy.
Knocking at the front door.
It's the mailman.
Bills, bills, please no more.
No more.
I'm 20-something young with my priorities straight.
Yeah.
I need to buy a booze and I need to buy a drawer.
I do.
This summer I'm going out every night.
Yeah.
Anyone can get it. I ain't scared of a fight.
What are you looking at?
You can be down or be on the other side.
True.
But this is my idea of the perfect life. But taught myself to fire when I needed ammunition.
That's right.
I taught myself to sing and I taught myself to shout. I taught myself how to get by and go without. I taught myself to make a proper English breakfast.
That's right.
'Cause I'm a little teapot short and stout.
Perfect life. Living out your wildest dreams. Yeah, we're just young and dumb.
I'm somebody that they feared. I just wanna play my bass here.
Thiago Rodriguez est directeur du Festival d'Avignon depuis septembre 2022. Parmi les spectacles qu'il programme l'été suivant, pour la première édition du festival dont il a la responsabilité, parmi ces spectacles donc figure Carte Noire nommée Désir, d'une jeune artiste française qui s'appelle Rebecca Chaillon. C'est la voix de cette femme que Thiago Rodriguez a choisi de vous faire écouter dans Totemic ce matin. Voici Rebecca Chaillon dans l'émission Bienvenue au Club sur France Culture, en septembre 2022.
Le mot théâtre traîne derrière lui beaucoup d'exclusion, au final, de personnes qui ne se sentent pas concernées, alors que c'est un terrain de jeu qui pourrait servir à tous et à toutes. Quand je joue dans des théâtres et que je vois que la population n'est pas assez mixte, n'est pas assez concernée, voilà. Enfin, pardon, je parle mal là, mais en tout cas, moi, c'est important là depuis que je fais les spectacles de voir dans les salles des publics queer, des publics non blancs, des publics de quartiers populaires, des gens à qui on dit que le théâtre est pour eux, mais ne se sentent pas invités, là, qu'ils se sentent invités, qui elles se sentent invitées, ça me touche beaucoup. Voilà, puisque les rituels du théâtre sont des rituels qu'on doit interroger aussi dans notre société, qui regarde qui raconte quoi. Comment on joue, à quoi on joue ensemble. C'est important pour moi qu'on puisse réfléchir vraiment à ça ensemble.
Oui, comme toujours, c'est fascinante et limpide la pensée et la voix de Rebecca. Cette idée d'une représentativité de personnes qui étaient invisibilisées par des systèmes d'oppression pendant des siècles et des siècles et qui doivent être pas seulement visibles, mais représentées, pas seulement représentées, mais en position de décider quel type de représentativité et visibilité elles ont.
Parce que pour rappel, cette pièce, une carte noire nommée Désir, pointait les stéréotypes de la représentation des femmes noires en Occident et en France en particulier. Ouais. Et Rebecca Chaillon, qui d'ailleurs a fait il y a quelques semaines la une de Libération, a reçu, après la présentation de ce spectacle à Avignon en 2023, un déluge d'insultes et de menaces racistes, grossophobes, sexistes, homophobes. Et elle dit d'ailleurs que ça l'a tétanisée, même dans sa créativité.
Rebecca avait présenté Carte Noire nommée Désir, son spectacle, dans plusieurs théâtres en France déjà, avant de venir au Festival d'Avignon. En venant au Festival d'Avignon, évidemment, on savait, on amène son spectacle à un espace, une plateforme de visibilité qui peut légitimer, qui peut donner à connaître plus largement. On voudrait bien qu'un public plus large découvre ce spectacle de Rebecca Chaillon parce qu'on le considère nécessaire, marquant dans les dernières années de la création française. On fait aussi la chronique des arts vivants de notre temps et parfois on écrit un chapitre important dans la biographie d'un artiste. En le faisant, il s'est produit qu'il y a eu des insultes, des agressions physiques et verbales à caractère raciste et autres, immédiatement au moment des présentations. Parfois, dans la salle, on a dû mettre en place un système, un protocole de sécurité et physique même des performeuses pendant le spectacle, mais aussi dans les rues d'Avignon. On a dû accompagner cette équipe et prendre position publiquement, avec le risque évidemment de jeter encore plus d'attention sur le sujet, mais répondant à la nécessité de positionner le festival vis-à-vis à ceux qui étaient des comportements et des attaques absolument inacceptables en démocratie. Et donc, là, nous sommes à côté de Rebecca de façon farouche. Farouche est un de mes mots préférés en français. Farouche. J'ai pris du temps à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. On est aux côtés de Rebecca et de sa voix de façon farouche. Et c'est pour ça que je pense que la voix de Rebecca compte aussi parce qu'elle dérange et parce qu'il y a eu tellement d'efforts de groupuscules d'extrême droite, de figures exécrables, encore une fois, de l'extrême droite, de la silencier et d'essayer de la détruire avec de l'harcèlement sur Internet, etc. Je ne suis pas non plus loin de ce genre d'expérience. En étant directeur du Festival d'Avignon, j'ai ma dose de menaces, d'attaques, d'insultes, etc. Par contre, je comprends que je suis à un endroit, un poste d'exposition qui peut produire dans la société actuelle des expressions plus fortes de critique. Par contre, il y a des limites et il faut rappeler les gens aussi qu'il y a une responsabilisation de certains médias, que quand on est visé par un certain média ultra-conservateur, notamment des chaînes télévisées, et qu'on est visé pendant des heures et qu'on est cible de calomnie dans un grand média, il faut responsabiliser ces médias parce qu'ils savent bien que les groupuscules en Internet et hors l'Internet, ils vont se réveiller, ils sont en train d'être activés. Ce qui s'est passé avec Rebecca, il y a des médias qui savent bien qu'en employant certains mots, en décrivant de façon tronquée certains propos, ils sont en train de réveiller la possibilité de la violence et de la menace réelle. Moi, je l'ai vécu, je l'ai vu être vécu par Rebecca et d'autres. Et dans ces situations, il faut, je pense, agir juridiquement, pénalement, et il faut continuer à parler. Et le Festival d'Avignon sera là pour parler, moi je serai là pour parler sans peur.
Il y a une chose quand même, c'est qu'il y a un an et demi, le Rassemblement National était sur le point de gagner les élections législatives. D'ailleurs, le premier et le second tour des élections ont eu lieu pendant le déroulement du festival. Les municipales, c'est en 2026. Et il est probable que le maire ou la mairesse d'Avignon soit un élu du Rassemblement National. Or, la mairie participe au financement du Festival d'Avignon. Vous, directeur du festival, dans cette perspective, vous faites quoi ?
Ma position était déjà claire pendant les législatives, parce que j'étais inquiété à ce moment-là, mais je suis toujours ravi de pouvoir la clarifier encore. Je ne vais pas démissionner. En cas de victoire de l'extrême droite, soit dans les municipales, même dans les présidentielles, je ne crois pas que le rôle soit de renoncer, démissionner. Par contre, je pense que le Festival d'Avignon, créé en 1947 avec le soutien de René Char, par exemple, à Jean Villard, avec le
René Char, ancien résistant.
Voilà, avec le soutien d'anciens résistantes après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de souhait de cohésion sociale à travers l'art, mais aussi de liberté, aussi de démocratie. Je pense que je ne serai pas le directeur du Festival d'Avignon qui ira, pour la première fois dans l'histoire, serrer la main à un élu d'extrême droite pour discuter avec elle ou lui les destins du festival, les subventions et les politiques culturelles. Après, j'ai aussi mon histoire personnelle qui ne me permettrait pas de serrer la main à un élu d'extrême droite pour travailler avec. Je respecte, attention, je respecte les élections comme quelque chose de sacré. Ça n'empêche qu'il y a des limites éthiques dans ma vie. Donc, on aura un problème, on aura certainement un impasse.
Mais ça veut dire refuser des financements publics ?
Ça veut dire exactement ce que je suis en train de dire, en sachant que la tutelle de l'association Festival d'Avignon est en conseil d'administration où il y a plusieurs partenaires publics. Ma position, elle est très claire, je ne démissionne pas. Par contre, je ne peux pas accepter de travailler avec des élus d'extrême droite. Cela dit, moi je crois à la lucidité démocratique des Français. J'ai cru aussi en 2024, et je l'ai dit quand on a organisé une nuit de barrage à l'extrême droite au Festival d'Avignon, qui pour quelques personnes était jugée purement symbolique, mais moi je pense que quand on dirige un festival comme Avignon, purement symbolique, c'est beaucoup, c'est un éloge, c'est pas péjoratif. Je crois que la démocratie va l'emporter encore une fois. Par contre, mes limites, ils sont annoncés, ils sont clairs, et j'espère pouvoir continuer à la tête du Festival d'Avignon jusqu'à 2030, parce qu'il y a des projets absolument fascinants à accompagner. Je serai ravi, mais je ne vais jamais sacrifier mon intégrité pour le faire. Évidemment, il y a des imperfections dans ce qui concerne le service public de la culture. Évidemment, il y a en France beaucoup encore à faire pour le compléter, pour le rendre encore plus démocratique, encore plus accessible. Mais je ne connais pas un autre pays au monde où le service public de la culture est, au niveau d'infrastructure et d'activité, tellement proche du peuple, tellement éparpillé dans le territoire, tellement enraciné dans la vie citoyenne, les institutions,
les
communautés.
Il y a plein de gens qui considèrent que le théâtre n'est pas fait pour eux. Plein.
Bien sûr, mais ça, c'est un droit absolument légitime. Le service public de la culture n'est pas nécessaire parce qu'une majorité aime déjà le théâtre. C'est parce qu'on considère qu'il doit être accessible, même pour ceux qui décident ne pas accéder. Et ça, je suis désolé. Le rapport qu'ont les centres dramatiques nationaux, les scènes nationales, les théâtres municipaux, les théâtres nationaux en France, juste pour parler des institutions publiques et les compagnies associatives, coopératives, éparpillées dans tout le pays. Si Jean Villard ou Jeanne Laurent n'étaient pas préoccupés avec le risque de centralisation de tous les artistes et toute la création à Paris, il n'y aurait pas Avignon, il n'y aurait pas la décentralisation. Évidemment, il faut parler des risques, mais de là à accepter que ces risques sont une réalité, surtout en France, je vous invite à celles et ceux qui croient que tout est sombre et se passe mal, alors que ce qui est sombre, c'est le manque de moyens, et c'est utiliser ces prémices pour diminuer les moyens, le financement et l'accompagnement de ce projet qui est absolument singulier pour la République française, qui la rend exemplaire dans le monde, qui est celui de l'exception culturelle, tuer par asphyxie financière cette exception culturelle et justifier ça avec la prémisse de « ouais, mais l'expérience, elle n'a pas marché, en fait, c'est que élitiste, etc. » Même s'il y a évidemment de l'autocritique à faire, même s'il y a des blessures à lécher, comme j'aime bien dire, même s'il y a des problèmes à résoudre, évidemment, il y a des choses à compléter et faire évoluer, mais je ne connais pas un service public de culture qui marche mieux dans n'importe quel autre pays au monde.
Rock the Casbah par Rachid Taha.
وش وش هذا الفوضى بتروف صحراء يسيل الشيخ يسوق الكادياك رعبت في السنتر فيل كانت بنا ولا حنش استنى في راس المال
Rock the Casbah, rock the Casbah.
m'en lasse pas. Thiago Rodriguez, directeur du Festival d'Avignon, metteur en scène, dramaturge, est l'invité de Totemic ce matin.
France Inter, Totemic.
On passe à votre carte blanche, Thiago Rodriguez ?
Ouais.
Elle est où ?
Elle est où ? Je cherche juste le bon chapitre.
C'est un chapitre de quoi, alors ?
C'est un petit chapitre de « Notes sur le chagrin » de Chimamanda Ngozi Adichie, autrice que je tiens très proche du cœur, qui nous a visité en 2023 au Festival d'Avignon et qui a écrit après ses notes sur le chagrin sur le décès de son père, qui est très lié. Ce petit bouquin est pour moi, avec un autre que je n'avais pas sur moi parce que c'était les deux candidats à cette lecture, qui est « Au bonheur des morts » de Vincent Després. C'est deux livres que j'ai lus énormément pendant que je préparais un autre spectacle que j'ai créé à Ghent, juste avant La Distance, qui est un spectacle qui s'inspire des dernières semaines de vie de mon père à l'hôpital que j'ai accompagné et qui s'appelle « Pas de yaourt pour les morts », qui viendra dans quelques mois pour la première fois en France. C'est un musical sur la mort de mon père à l'hôpital. Et ce spectacle-là, j'ai beaucoup lu sur la question du deuil, sur la question de la fin de vie. Et évidemment, voilà, il y a des lectures que j'ai gardées. Vincent Després et Chimamanda Ngozi Adichie étaient de manière différente des voix qui me chouchoutaient beaucoup à l'oreille, avec une pensée dense et en même temps avec une espèce de rapport très intime avec la question du deuil. Le choix est basé pas sur mon envie de vous impressionner avec un fragment littéraire absolument fulgurant, alors que je l'aime beaucoup, mais plutôt parce que c'est une partie à laquelle je reviens beaucoup et qui, à l'époque, m'a touché énormément. Alors voilà, j'ai un rapport avec ce petit texte. Je me suis souvenu de mon père me préparant à mon General Certificate of Education et comment il m'avait dit, me voyant calé au milieu d'une longue équation, « Oui, tu tiens le bon bout. Ne doute pas de toi-même, ne t'arrête pas. » Est-ce pour cela qu'aujourd'hui, je crois que ça vaut toujours la peine d'essayer ? C'est trop facile, bien sûr, d'établir des liens de cause à effet aussi simples. C'est l'entièreté de sa personne qui m'a formé. Mais ce furent aussi tous ces petits événements, l'un après l'autre. À l'école secondaire, mes amis et moi avons un jour soumis un problème au nouveau et timide professeur de maths, M.O., lequel, jetant un coup d'œil à l'épineux problème, s'était empressé de dire qu'il devait aller chercher ses tables de logarithmes alors qu'il n'y en avait nullement besoin. Nous sommes sortis de son bureau en rugissant avec une hilarité méchante d'adolescente. J'ai raconté l'histoire à mon père, pensant le faire rire, mais il n'a pas ri. « Cet homme n'est pas un bon professeur », a-t-il dit. « Pas parce qu'il ne savait pas résoudre le problème, mais parce qu'il n'a pas dit qu'il ne savait pas. » Est-ce pour cela que je suis devenu quelqu'un qui a assez confiance en soi pour dire « je ne sais pas quand je ne sais pas » ? Mon père m'a appris qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Il n'avait pas, contrairement à beaucoup de parents Igbo de sa génération, ce sentiment d'avoir une prérogative en droit sur les efforts, l'argent et le temps de ses enfants, ce que nous lui aurions pardonné de toute façon, à mon avis. Mais le fait qu'il fût si respectueux de nos limites et si reconnaissant des plus petites choses, c'était comme un inestimable bonus. Je le saluais souvent par son titre « Odelu Ora Abba », dont la traduction littérale serait « Qui écrit pour notre communauté ?». Lui aussi me saluait et ses salutations étaient une litanie d'encouragement gorgée d'amour. « Home ife uku » était la plus fréquente, celle qui fait de grandes choses. Je trouve les autres difficiles à traduire. « Nuoki neli » signifie en gros « l'équivalent de nombreux hommes, et Ogbata Ogu Ebie, celle dont l'arrivée met fin à la bataille. Est-ce à cause de lui que je n'ai jamais eu peur d'être désapprouvé par des hommes ? Je crois que oui. Ce qui est beau ici, c'est que, comment le père a formé la fille, comment ces petits détails, c'est vrai, ces petits détails changent tout. Cette phrase, ce regard, cette façon de toucher quelqu'un, et de, voilà, ça peut rester avec nous pendant des décennies, comme la chose la plus importante, alors que la personne, le geste, il était un petit geste involontaire, etc. Pour moi, c'est un fragment qui me parlait et du deuil de mon père, et du spectacle La Distance, un père et une fille, la fille qui part, et cette mémoire de comment un père a contribué à ce qui est la fille aujourd'hui. Et voilà, et je voudrais le partager avec vous, et aussi célébrer Chimamanda, parce qu'elle est absolument géniale.
Merci beaucoup, Thiago Rodriguez.
Merci.
On n'a pas vu le temps passer, et Thiago Rodriguez devait partir, donc on a fait une photo en 2-2, micro éteint, et pas de Polaroid ce matin. Le livre que Thiago Rodriguez a choisi pour sa carte blanche s'intitule « Notes sur le chagrin » de Chimamanda Ngozi Adichie, et d'autres mémos pour la route, « La distance », pièce de Thiago Rodriguez, se joue à Dunkerque les 29 et 30 janvier, au Volcan, la scène nationale du Havre les 3 et 4 février, ensuite il y aura Grasse, Istres et Aix-en-Provence entre mai et juin. Et bien sûr, cet été, le Festival d'Avignon aura lieu du 4 au 26 juillet. Anaïs Reynard a réalisé cet épisode de Totemic avec Gaspard Guy Bourget ce matin, et on embrasse Stéphane Le Guenec. Perrine Malinge co-programme nos invités, Ilinka Negulesco s'occupe des sons et de la GDOC, et J.B. Audibert choisit les disques de la BO de l'émission. La semaine prochaine, rendez-vous dans une salle de ciné, choisie par la comédienne Noémie Merlan, et la semaine suivante, ce sera dans un théâtre avec Malik Bentala.